Donc le thème de cette deuxième semaine, ça va être les émotions. On va parler un peu des émotions et comment la méditation peut nous aider à changer la relation peut-être avec certaines émotions qui nous posent problème. Et donc je voudrais reprendre avec une compréhension un petit peu des processus, regarder de nouveau les processus de concentration, d'attention, et déjà de remarquer en fait là, donc, dans ce qu'on vient de faire, quand on est perdu dans nos pensées, donc c'est toujours intéressant, on dit je suis perdu dans mes pensées, je en fait c'est l'attention. C'est l'attention qui est perdue dans les pensées, c'est ça qu'on appelle je. Donc, quand l'attention est perdue dans les pensées et qu'on le remarque, on la dégage des pensées et on la ramène sur la sensation physique de la respiration. C'est ça qu'on a fait pendant la première semaine. Ça, en fait, ce qu'on en faisant ça, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, et sinon c'est à remarquer, ça désactive la pensée. C'est-à-dire que la pensée a besoin de notre attention pour continuer. Ça, c'est extrêmement important à remarquer. Et pas remarquer juste une fois et puis se le dire et dire ah oui, c'est vrai, c'est comme ça, mais de le remarquer encore et encore, de remarquer comment à chaque fois qu'on enlève l'attention de la pensée ralentit et puis s'arrête. Et de devenir vraiment familier avec ce processus. Et donc, en fait, quand on déplace notre attention et qu'on la porte ailleurs, ce qu'on change, c'est notre expérience du moment présent. C'est-à-dire que l'expérience du moment présent, c'était une histoire, quelle qu'elle soit. Qu'elle soit plaisante ou déplaisante, et tous ces univers qu'on peut créer par la pensée. On était donc dans un certain univers, et là, on a remarqué et on a décidé d'amener notre attention ailleurs, sur la réelle sensation de respiration physique, et notre univers devient complètement différent, en fait. Notre expérience du moment va dépendre d'où se trouve notre attention. Ça aussi, c'est très important, parce que ça veut dire que suivant l'expérience qu'on veut faire et suivant même la vie qu'on veut mener, on va prendre une certaine gestion de notre attention et la mettre là où c'est vrai, ça nous intéresse vraiment, et ne pas la laisser prise là où c'est finalement pas très intéressant. Donc là, il y a une grande sagesse, en fait, à reconnaître ce mouvement et à avoir la capacité d'amener notre attention là où on semble que c'est fructueux pour nous. Fructueux veut dire qu'il ne crée pas de souffrance, dans les termes du bouddhisme, qu'il ne crée pas de souffrance ni pour nous, ni pour autrui. Donc, c'est deux choses. Une, notre attention va nourrir. Alors, dans ce cas-ci, la pensée, notre attention va nourrir la pensée. Et tant que la pensée a notre attention, elle continue à se développer, proliférer. Je disais, papancha, la prolifération des pensées, c'est parce qu'elle réussit à capter notre attention. Et si on l'enlève, cette prolifération ralentit. Et donc, notre expérience du moment change. Là, dans ce cas-ci, on va faire l'expérience de la respiration. Ce qui va en fait nous permettre de connaître la respiration. Parce que c'est une autre qualité de l'attention, c'est pas simplement qu'elle détermine notre moment présent et ce qu'on vit dans le moment, mais c'est qu'elle nous permet de devenir intime et familier et connaissant de ce qu'elle touche. Donc si on veut vraiment connaître la respiration, par exemple, il faut porter attention à la respiration. Et c'est pareil pour tout. On va au final connaître et devenir intime et familier avec tout ce qui a reçu notre attention. Et ce qui n'a reçu aucune attention ne fera pas partie de notre existence, ne fera pas partie de notre connaissance. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est important de remarquer et de se dire en fait que si on veut devenir familier, si on veut vraiment connaître quelque chose, il faut y porter notre attention. Et c'est avec les, par exemple, cette attention portée, ça va être aussi pour avoir des amis, il faut être à même de leur porter cette attention. Si on n'est pas à même de porter suffisamment d'attention à une personne, ben on ne peut pas avoir un ami. Et c'est un des gros problèmes des personnes qui souffrent de troubles, des déficits attentionnels, c'est qu'elles n'ont pas d'amis. Parce qu'en fait, leur attention ne reste pas suffisamment longtemps en contact avec quelqu'un pour créer la relation. Et ça va être avec n'importe. Pareil pour toute chose. Il faut que notre attention reste suffisamment en contact avec une chose pour créer la relation. C'est à travers cette attention que va se créer la relation. Et à travers cette relation créée, il y aura une connaissance une connaissance intuitive et puis éventuellement aussi avec des réflexions et des compréhensions. Donc en méditation, on apprend à choisir ce à quoi on veut dédier notre attention et choisir ce à quoi on ne veut pas dédier notre attention. Donc ça veut dire que, en fait, par rapport à la pensée, par exemple, cet exemple de la pensée, c'est du déni de la pensée. On va lâcher la pensée. C'est un désintérêt. On va se désintéresser de la pensée. De la pensée, mais il peut y avoir plein de choses. Ou à un moment, on voit que notre attention est prise dans quoi que ce soit qui n'est pas intéressant, on se désintéresse de ça, mais on ne peut pas se désintéresser comme ça dans le vide. On se désintéresse pour s'intéresser à autre chose. Ça va toujours être ça. C'est ce que je disais la dernière fois. On ne peut pas se dire, je vais arrêter de penser. Mais par contre, la pensée va s'arrêter si on amène notre attention ailleurs. C'est ça. Dans le cadre des émotions, donc, avec cette attention, là, on a contacté la respiration, mais on peut contacter toute chose. Tout est observable. On peut devenir familier avec toute perception, en fait. Donc, on peut se mettre à devenir familier avec les sons, amener notre attention sur les sons. On peut amener notre attention, comme on va le faire dans cette séance, sur les sensations physiques. On peut amener notre attention sur tout, en fait, ce qui va avoir un début, une durée et une fin. Tout ce qui fait partie de l'expérience du moment. Y compris les émotions elles-mêmes. Mais par contre, c'est un objet, les émotions, on appelle ça, on dit des objets d'attention en fait. Même si c'est une émotion, ce n'est pas vraiment un objet, mais on appelle ça un objet d'attention. Donc une émotion est un objet plus difficile à observer que la respiration. La respiration, il y a vraiment une sensation physique, donc on appelle ça un objet grossier quelque part. Et on le rend encore plus grossier quand on compte ou quand on fait du bruit et tout ça, on le solidifie pour qu'il soit plus perceptible. Les émotions, même si elles nous emportent très très fort, c'est fin d'essayer d'observer une émotion. Ce n'est pas forcément simple d'observer que ce soit joie ou tristesse ou colère ou quelle que soit l'émotion. Hein, c'est plus au niveau d'une énergie qui est là à l'intérieur. C'est moins clair en fait. Qu'est-ce qu'on observe? Mais il y a cette notion que si... Donc les émotions qui est un processus que tout le monde connaît, en fait on a tous les émotions, on a tous les mêmes émotions en fait, pour des raisons différentes, mais on a tous les mêmes émotions. Et ces émotions, elles nous mettent en mouvement, c'est ça que ça veut dire d'ailleurs. L'émotion, je ne me rappelle plus l'étymologie, mais en anglais c'est motion, hein, c'est mouvement, et en fait les émotions sont là pour nous mettre en mouvement. Et parfois, elles nous mettent en mouvement d'une façon très fructueuse et parfois, elles nous mettent en mouvement d'une façon très problématique. Et c'est surtout sur les mouvements problématiques qu'on va se concentrer. Mais il y a vraiment cette notion que pour pouvoir avoir un univers émotionnel équilibré, il faut le connaître. Il faut connaître. Les émotions. Il faut porter suffisamment d'attention aux émotions pour apprendre à les connaître. Et c'est de cette connaissance que va venir un certain équilibre dans la relation qu'on a avec ces émotions, parce qu'on va devenir familier et intime, ce qui est pas intuitif. On a plutôt tendance à quitter les émotions difficiles, on a plutôt tendance à vouloir les nier, à vouloir à ce qu'elles ne soient pas là. Et donc là, on va avoir un mouvement contraire, un mouvement contre-intuitif, qui est que plutôt que de quitter les émotions, on va essayer d'aller vers les émotions. Et ça va être le thème de la semaine. On va essayer de les repérer, de les accepter, d'être avec, de s'y intéresser. Et pour décrire un peu ce processus méditatif, Il y a un acronyme qui a été utilisé, je ne me rappelle plus qui l'a utilisé en premier, mais maintenant il est assez connu, c'est l'acronyme RAIN, R-A-I-N. Donc ça veut dire pluie en anglais. Et en fait, donc ces quatre lettres représentent ce qui pourrait, en fait c'est un seul mouvement, mais qu'on pourrait diviser en quatre, comme quatre étapes. Vous allez comprendre, je vais l'expliquer ce mouvement. Donc, le R de RAIN, c'est reconnaître. Et donc, ça, c'est la première. Donc, rappelez-vous, l'idée, c'est vraiment d'être avec une émotion, là. Ce qui n'est pas facile du tout. Mais l'idée, c'est vraiment d'être avec une émotion. Imaginez qu'à un moment, vous vivez une émotion. Et bien, si vous vous rappelez de cet acronyme RAIN, ça va vous aider à rester avec. C'est ça le but. Et la première lettre, c'est reconnaître. C'est-à-dire ben, se rendre compte en fait qu'il y a une émotion. Parce que parfois on est complètement pris dans une émotion, mais on n'est pas au courant qu'on est pris dans une émotion. Hein, on peut être en colère sans savoir qu'on est en colère. Ou on peut être pris dans du marasme et de la tristesse. Et il faut parfois un certain temps pour se dire, en fait, je suis pris par la tristesse. On n'est pas forcément au courant, on n'a pas le recul. Et c'est justement ça, en fait, déjà dans cette première démarche, de reconnaître qu'une émotion est présente. Dans ce moment-là, déjà, ça change notre relation avec cette émotion. Il se passe un truc. Et ça, on peut tous le sentir. C'est très perceptible avec la colère, où on sent une grosse différence entre être pris par la colère ou savoir qu'on est en colère. Dès qu'on sait qu'on est en colère, c'est déjà plus pareil. Et déjà là, rien qu'avec ça, on ne va plus être pris de la même manière par la colère et on ne va plus être le jouet. Et reproduire des choses qu'on a apprises souvent il y a bien longtemps, on va avoir en fait plus de possibilités, un peu plus d'espace et de possibilités déjà de par exemple ne pas dire des choses qu'on n'aurait pas voulu dire, ou de ne pas faire des choses qu'on n'aurait pas voulu faire. Sous l'emprise de la colère, on peut parfois détruire et abîmer ou même blesser des gens autour de nous, ou nous-mêmes. Hein. Et quand on sait qu'on est en colère, il va y avoir déjà une petite distance qui va permettre qu'on n'aille pas aussi loin ou même qu'on ne dise pas certaines paroles qu'on aurait dites si on n'était pas au courant. Donc ça, c'est la première étape, reconnaître. Sans ça, il y a pas de distance avec l'émotion parce qu'on est dedans et il n'y a pas non plus du coup de possibilité de l'observer parce qu'on ne sait même pas qu'on est en train de la vivre, on n'est pas conscient qu'on est en train de la vivre.
Ça peut être des émotions positives aussi, alors.
Ça peut être des émotions positives. Comme je le disais là, on va se concentrer sur les émotions négatives, parce que c'est un peu celles qui posent le plus de problèmes. Mais on peut de toute façon être très intéressé à observer toutes les émotions, qu'elles soient positives ou négatives.
Quelle différence il y a entre ce que tu viens d'expliquer et taire ces émotions?
Alors, je vais finir le processus. En fait, je vais finir et puis après ça, on prendra. Parce que je vais peut-être y venir en fait sur les questions que vous vous posez. Donc. La deuxième lettre, le A, c'est accepter. Donc, ça veut dire en fait que souvent, quand on remarque qu'on a une émotion, on va avoir tendance à ne pas être d'accord de la vivre, cette émotion. On va avoir tendance, par exemple, on va la justifier en disant, mais non, mais c'est pas normal que je sois triste. J'ai suffisamment à manger, j'ai une maison, j'ai une vie, j'ai tout pour être heureux, en fait. Donc, quelque part, on va commencer à ne pas accepter le fait que que la tristesse soit là. On va essayer de se dire qu'elle ne devrait pas être là. Et ça, c'est de la non-acceptation. Donc là, pour pouvoir prendre un temps avec cette tristesse, par exemple, eh bien, il faut accepter d'abord qu'elle soit là. Donc il faut reconnaître qu'elle soit là et puis il faut accepter qu'elle soit là. Sinon, on va la couvrir d'une manière ou d'une autre. Moi, quelque chose qui m'aide pour accepter, c'est de me dire en fait, c'est pas la peine de se dire, parce que parfois on peut se dire aussi, bah, depuis les années que je médite, je ne devrais pas vivre des colères pareilles, ou depuis. Et essayer comme ça d'une manière ou d'une autre de mentaliser et de nier la présence de cette émotion. Mais en fait, on peut tout simplement se dire, oh, elle est là. Parce que ça, c'est vrai. Dans le moment, là, il y a tristesse. Dans le moment, là, il y a solitude. Dans le moment, là, il y a ou joie. On peut remarquer, dans ce moment, il y a ça. Ça, c'est un fait. OK. Et donc, ça, c'est accepter. Accepter, dans ce sens-là, veut dire laisser être. C'est là. Ok, c'est là. On l'a reconnue et on la laisse être. Elle est là. Le troisième mouvement, ça va être de s'y intéresser. Ah, tiens, c'est intéressant ça. Il y a une émotion qui est là et on sait que on voudrait être plus familier avec les émotions. Un élément qui va permettre, qui moi m'est très utile pour rendre ça plus accessible, c'est la connaissance de la permanence, qui est un thème qui viendra plus tard. Mais c'est de savoir que, aussi de savoir que cette émotion, elle ne va pas durer. Parce que rien ne dure, parce que tout change. Ça, c'est le thème de je ne sais pas si c'est le suivant ou celui encore après. Et donc, quand on a ça à l'esprit, on se dit, bah, tiens, tant que c'est là, sachant que ça va partir, c'est bien le moment, en fait, d'accueillir cette émotion et de lui accorder de l'attention. Et la quatrième lettre, le N de Rain, c'est, alors là, je vais l'expliquer ce terme, mais c'est non-identification. Et non-identification, ça veut dire, en fait, tout simplement, c'est ce que je disais au début, c'est de se rappeler que toutes les émotions qu'on vit, elles sont universelles. Que ce soit de l'Inde, la Thaïlande, les Esquimaux, tout le monde connaît la colère, tout le monde connaît la tristesse, tout le monde connaît toutes les grandes familles d'émotions. En fait, elles sont on peut les voir comme des énergies qui visitent tous les êtres humains. Et dans ce sens-là, en fait, c'est intéressant de le voir comme ça, parce que ça permet de nous sortir de l'histoire qui a généré cette émotion. Parce que les histoires, bien sûr, sont très personnelles. On a tous des histoires très personnelles, mais les émotions, elles sont universelles. Et nous, ce qu'on veut observer, ce n'est pas spécialement l'histoire, on en viendrait à la psychologie sinon, mais c'est la nature même de l'émotion. C'est quoi une émotion ? C'est quoi une émotion ? C'est quoi la peur ? Quand elle est là ? Hein ? Donc, de s'intéresser à comment elle est vécue dans le corps, comment elle est vécue au niveau d'une atmosphère, d'essayer de passer du temps, d'essayer de lui accorder notre attention. L'attention, ce qu'elle va vouloir faire, elle va toujours être reprise par l'histoire qui a généré cette émotion. C'est ça qui va être difficile. Et là, et il faut même qu'il y ait un petit peu d'histoire qui continue à tourner pour que l'émotion elle reste, bien sûr, parce qu'il y a un lien entre l'histoire et l'émotion. Mais le but est de bien consciemment se laisser vivre cette émotion plutôt que d'essayer de se laisser tourner dans l'histoire à chercher des solutions de « j'aurais pas dû ceci, il aurait pas dû ça » et ceci, cela. Comme je le disais, l'intention va être d'apprendre à devenir familier et intime et connaisseur de toutes les émotions qui nous visitent depuis qu'on est gamin, mais que d'habitude, on a plutôt tendance à fuir en fait. On va fuir les émotions comment ? De la même manière qu'on fuit des pensées, parce qu'on a décidé qu'on ne restait pas perdu dans nos pensées, on prend notre attention et on la ramène ailleurs. Eh bien, les émotions, c'est pareil. On essaye de ne pas laisser notre attention dessus d'habitude et on essaie de la mettre ailleurs. Donc, on va aller visiter un ami, on va allumer la télé, on va faire un truc de manière à ne plus sentir cette émotion. Et ici, on fait l'inverse. On va faire un truc pour continuer à essayer de sentir cette émotion. Vous voyez, on prend vraiment le mouvement contraire. Et c'est un mouvement que je trouve très intéressant parce que on se dégage de cette émotion au moment où on reconnaît et qu'on la nomme. Déjà, elle a moins d'emprise sur nous et il y a plus d'espace autour. On n'est plus autant dedans. Donc, on sort de cette émotion comme si on en devenait le témoin plutôt que le jouet. Mais après ça, on replonge dedans pour bien la voir. Mais quand même comme si on était un peu comme l'aigle focus et il voit très précisément ce qui se passe, mais il n'est pas dedans. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Et c'est ça le mouvement du RAIN. Et c'est ça, le non-identification permet, en fait, de ne pas se sentir comme personnellement concerné. C'est un peu plus comme de l'anthropologie, en fait. On prend un temps pour aller explorer ce qui fabrique l'humain, ce qui visite tous les humains. Bien sûr, on va devenir, au-delà des mots, connaisseur des émotions, on va mieux connaître chaque émotion. Et on peut les nommer. Ça aide, hein, c'est quelque chose qui s'utilise de plus en plus à l'école aussi pour aider les enfants en fait à rentrer en maîtrise un petit peu de leurs émotions difficiles. Et bien, de les nommer, il y a vraiment un lien entre la capacité de nommer et la capacité de récupérer un certain espace, une certaine liberté. Mais donc on va vraiment essayer d'avoir ce mouvement de s'extraire, mais sans détourner le regard. Donc c'est pas du déni. Le déni, c'est dire elle n'est pas là. Hein, essayer de faire autre chose, de voir autre chose, ou de dire ah ben non, mais je ne devrais pas vivre cette émotion. Voilà, c'est pas du tout du déni, au contraire, c'est de l'intérêt, mais c'est pas non plus rester pris dedans. Vous voyez, il y a quelque chose de fin qui se joue là, qui va nous amener une certaine connaissance à la longueur, et en plus, qui va avoir un impact sur le côté problématique de cette émotion. C'est-à-dire qu'elle va perdre son aspect problématique, même s'il reste colère, même s'il reste tristesse, même s'il reste frustration, ça ne sera plus aussi problématique. Et en fait, toute notre relation à cette émotion va être transformée par cette pratique. Celui qui vraiment s'engage dans cette pratique va voir sa résilience, sa capacité à passer d'une émotion à l'autre, sa capacité à vivre pleinement une émotion difficile, et puis après ça, à la laisser partir, sans que ça laisse une nappe sur des jours ou parfois des semaines ou des mois. Il y aura plus de capacité d'être avec et plus de capacité de laisser partir. Et ça vient et est assez compréhensible parce que cette attention qu'on amène dessus, elle n'est pas neutre. Cette attention, elle a un impact. Comme on disait déjà, elle va nourrir la pensée, par exemple. L'attention nourrit la pensée. L'attention va, c'est le grand mystère de l'humain, c'est l'attention, la conscience. D'amener la conscience sur quelque chose n'est pas neutre. C'est très intéressant, on vit une époque intéressante au niveau scientifique, parce que c'est maintenant aussi une donnée scientifique. Maintenant, le fait qu'on prête attention à une expérience est compté comme faisant partie de l'expérience. Parce que l'attention a un impact sur ce qui est sur l'expérience qui est faite. Donc ça, c'est nouveau, ça a une centaine d'années, ça n'existait pas avant. Mais maintenant, c'est relationnel en fait. Et donc là, relationnellement, l'attention, le fait que l'attention soit dédiée aux émotions va rééquilibrer cet univers émotionnel. Parce que l'attention, elle fait ça en fait. C'est ça qui est absolument incroyable, mais c'est que cette attention, il y a une espèce de l'intelligence suprême de la nature, elle est dedans en fait. Et elle rééquilibre là où c'est problématique. Il y a une expérience, c'est pas du tout dans le domaine des émotions, mais une expérience qui moi m'avait assez impressionné, qui était avec des gens qui ont du psoriasis. Et donc il y avait un groupe à qui on avait appris un peu comme on l'a fait maintenant, on avait appris de la pleine conscience, et un groupe non. Et puis alors en fait, pour soigner le psoriasis, ils utilisaient une lampe ultraviolette avec la chaleur. Et donc il y avait le groupe qui avait appris la pleine conscience. On leur avait demandé, pendant les 20 minutes de traitement, ou je ne sais plus combien, de se concentrer sur la sensation physique de ce qui se passait, la chaleur sur le psoriasis et tout ça, de chaque fois qu'ils partaient dans leur pensée, ramener leur attention sur cette expérience-là. Et l'autre groupe, ben, qu'est-ce qu'on fait quand on est là, on a 20 minutes, on est à l'hôpital, on se fait soigner, ben, on pense à ce qu'on va cuisiner après, il ne faut pas que j'oublie d'acheter ceci et ceci, cela. Hein, c'est comme d'hab. Et en fait, le groupe témoin qui ramenait son attention sur la plaie guérissait beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Et des expériences comme ça, il y en a eu des dizaines, qui montrent qu'en fait, que quand on porte attention à une problématique de notre corps ou de notre esprit, de notre univers émotionnel, cette attention, en fait, elle va rééquilibrer, elle va soigner. Donc on fait ça, c'est pas simplement qu'on devient plus connaisseur et que du coup on va acquérir une certaine maîtrise. Il y a cette dimension-là, mais il y a aussi la dimension du fait que c'est sain, il est bon, en fait, que les zones problématiques de nous-mêmes reçoivent suffisamment d'attention. Comme les petits-enfants qui ont des problèmes, c'est ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de notre attention. On donne de l'attention à un petit enfant qui a des difficultés et il va trouver son chemin, en fait. Mais s'il ne reçoit aucune attention, sa difficulté va grandir, 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 grandir. C'est pareil pour notre univers émotionnel. Quand il y a des choses qui sont difficiles, qu'on vit des moments difficiles, il va y avoir besoin à certains moments. Alors pas toujours, il y a des moments où ça nous envahit. Si ça nous envahit, il faut détourner notre attention ailleurs pour ne pas se laisser envahir. Mais quand on s'en sent, quand on a la niaque, on peut se dire, bah, tiens, là, je vais rester un peu avec. Hein, on reconnaît la présence d'une émotion, on se dit, bah, là, je vais rester un peu avec. Et alors, on utilise cette approche qui est décrite par le RAIN, reconnaître, accepter, s'intéresser. Et pour pouvoir faire ce processus-là, il ne faut pas s'identifier. Il faut vraiment se sentir comme un anthropologue. Et quand on explore cette émotion, en fait, c'est l'humain qu'on explore. Ce n'est pas mon histoire. Hein, c'est ça, non-identification. Pour aider à être en contact et quelque part à faire mieux l'expérience d'une émotion, les méditations qu'on va faire, et là où on va porter notre attention, c'est beaucoup sur le corps. Parce que c'est au niveau du corps qu'on va plus déceler la présence d'une émotion. En fait, une émotion, il y a un vécu physique d'une émotion. Et c'est le vécu physique de l'émotion qui va être le plus perceptible. Donc il y a un entraînement à une certaine conscience du corps qui va nous permettre en fait, d'être conscient de la présence d'une émotion. Et de pouvoir l'observer. Donc, la méditation qu'on va faire, on va faire une méditation où, avec notre attention, on va visiter notre corps, ce qui est assez incroyable. Moi, je trouve ça incroyable, les yeux fermés, de pouvoir connaître chaque endroit de notre corps. On promène notre attention et on peut sentir le gros doigt de pied. C'est incroyable. Juste avec l'intention d'aller dans le pied et de sentir cet endroit-là, et on va poser notre attention là. Et puis après ça, on va l'amener là. Et puis on va sentir là. Et c'est des sensations très différentes les unes des autres. La plante du pied, c'est très différent du genou, au niveau de la sensation. Et donc, on va faire ça. On va promener notre attention dans notre corps. Et ça, c'est un entraînement. Parce qu'à un moment, quand il y aura une émotion que vous voulez explorer, elle sera là quelque part. Surtout dans le dessus du corps, en fait. Les émotions, elles sont vécues... depuis, voilà, le dessus, dans les jambes, pas tellement, en fait. Donc, on va s'entraîner à avoir une connaissance, une affinité avec notre corps, et ça a énormément de bienfaits. De nouveau, on va amener notre attention sur notre corps, c'est très bon pour le corps. C'est très bon qu'il reçoive notre attention. Il en a besoin aussi, le corps, d'être reconnu dans notre attention. Mais, en plus, ça nous rendra... prêt, quelque part, quand une émotion se présente, à savoir la déceler dans le corps et y porter attention. On ne va pas ici faire une méditation sur une émotion spécifique, parce qu'on ne va pas la générer. Je ne vais pas vous raconter une histoire triste pour que générer une... Ça s'est fait, hein, ça s'est fait, mais bon, moi, je n'ai jamais fait ça. Mais donc, on va avoir cette conscience du corps. Et peut-être ce qu'il est bon de savoir au moment où vous vivez une émotion et que vous voulez l'observer, ça sera de... ça peut, comme c'est fin, c'est subtil, c'est difficile de la maintenir, en fait. Ce que vous pouvez faire, c'est d'essayer de la décrire. Déjà, de savoir où est-ce que je la sens dans le corps. Est-ce que c'est plutôt le cœur, il y a un peu des palpitations? Est-ce que c'est la respiration qui est courte, hein, ou bien ample, si c'est des émotions agréables, ça va plutôt être ample? Ou est-ce que le visage est chaud, hein? Et puis après ça, est-ce qu'on peut essayer de la décrire? Est-ce que c'est pointu? Est-ce que ça pulse? Est-ce que c'est plutôt métal? Est-ce que c'est plutôt liquide? Ah, vous voyez, on peut donner des couleurs. Est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est noir? Tout ça... avec l'intention d'être au plus proche du vécu de l'émotion. Est-ce que vous avez des questions? Donc là, s'il y a quelques questions par rapport à ce qu'il vient de se dire, on va faire ça maintenant. Puis il y aura une petite pause et puis après ça, il va y avoir la méditation guidée, qui sera la méditation de la semaine. Est-ce que vous avez des questions par rapport à...
Rain, en fait, enfin, tout le processus là, c'est porter son attention sur la sensation de l'émotion, physique. Juste ça, pas
C'est juste
sur
ça. C'est juste ça, pas sur l'histoire.
juste sentir où c'est et comment c'est.
Ouais, voilà. Voilà. Et donc repérer quand ça va être en fait, l'idée, ça va être de repérer dans le quotidien des moments où il y a des émotions et apprendre à prêter attention à ce qui est en train de se vivre. Presque au niveau énergétique, dans le corps, plutôt que de ressasser l'histoire qui a généré cette émotion. Ouais. Ou plutôt que, pour ne pas ressasser, distraire notre attention sur autre chose pour changer l'univers, en fait.
Donc quelque part sentir que l'émotion n'est pas dans la tête.
Sentir que l'émotion n'est pas dans la tête, ouais. Qu'elle est générée par une histoire, mais qu'elle elle n'est pas en elle-même l'histoire. Ouais. Et c'est aussi se dire je ne suis pas l'émotion. Ça, c'est la non-identification. Donc il faut bien garder à l'esprit que ce qu'on va aller observer, ce n'est pas notre histoire. C'est se dire, bah, tiens, tant qu'elle est là, la tristesse, vu qu'elle traverse les êtres humains depuis des milliers d'années partout sur la planète, et que moi, elle est justement là, bah, je vais en profiter pour aller y voir un petit peu, sachant qu'en plus, c'est bon pour moi. Un peu, c'est un peu ça. Et c'est intéressant aussi, je ne vais pas trop partir là-dedans, pourtant c'est vraiment ça qui me passionne, mais c'est la présence du narratif dans la pleine conscience. Parce que là, il y a un narratif. Hein? La non-identification, c'est une compréhension qu'on va amener dans notre regard pour voir d'une certaine manière, qui va permettre de lâcher prise beaucoup plus fort. Et cette présence du narratif, cette présence de la philosophie, en fait, dans le regard, est indispensable, absolument indispensable et complètement sous-estimé pour le moment en Occident dans le mouvement de pleine conscience, où on va dire qu'il suffit de se connecter au moment présent et que ça va tout solutionner, on entend ça parfois. Et c'est vraiment pas vrai. Et c'est terrible de dire ça, parce que quand on prend par exemple les petits-enfants, les petits-enfants à ce moment-là vivent la pleine conscience, mais eux n'ont pas la capacité de mettre en perspective comme nous. Et du coup, juste le fait d'avoir faim, c'est la catastrophe, parce qu'ils ne peuvent pas mettre en perspective. Ils n'ont pas la philosophie, ils n'ont pas la compréhension du temps, et ils ne peuvent pas se dire, ben, on mange dans un quart d'heure. Nous, ça nous soulage de savoir qu'on mange dans un quart d'heure. Donc on relationne au moment présent à travers de certaines compréhensions, toujours. Et c'est de choisir les bonnes compréhensions pour ouvrir le moment présent qui va être toute la sagesse. Juste le moment, dire que juste le moment présent est tel qu'il est, indépendamment de notre philosophie, c'est faux. C'est faux. Et quand on voit les petits-enfants, ils vivent ce qu'on appelle des tempêtes émotionnelles, parce que justement, ils n'ont pas cette capacité, en fait, d'inclure le temps et une autre perspective. Et en fait, le moment présent, c'est l'horreur. À ce moment-là. À ce moment-là, c'est l'horreur. Ils ont besoin des parents qui sont là, qui les rassurent, qui leur disent ça va passer, mais c'est déjà un concept, ça va passer. C'est plus le moment présent, ça va passer. Et donc, en fait, c'est le mariage d'une compréhension profonde, d'une sagesse et d'une philosophie profonde qu'on arrive à mettre dans notre regard, dans le moment présent, qui fait une pleine conscience éclairée. Sinon, la pleine conscience, ça peut aussi être... quelqu'un qui rentre dans une maison pour faire un braquage quand les gens dorment, c'est de la pleine conscience. Parce qu'il va exactement mettre ses pieds où il faut, faire aucun bruit, il va être conscient de tous ses mouvements. Mais quelle est son intention? Son intention n'est pas informée par la même philosophie que quelqu'un qui est plat de compassion. Et donc il faut cette philosophie au service de la pleine conscience. Et déjà là, le RAIN, il y a ça. On amène la philosophie de se dire, cette émotion qui est là, elle est universelle. C'est une philosophie, ça. Le petit enfant ne peut pas faire ça. Lui, il est complètement enseveli par une émotion, c'est tout. Nous, on peut approcher cette émotion sans peur si on se dit qu'en fait, ce n'est pas mon émotion, mais c'est une émotion qui visite l'humain. Ça, c'est de la philosophie. C'est ce mariage de philosophie et pleine conscience, en fait, qui est vraiment, qui amène toute la beauté de la méditation. Ok, donc je vous propose 5 minutes de pause et puis on plonge dans notre corps.